La maîtresse et Marguerite. Au milieu des années 50, un 4 septembre, déjà emmitouflé dans les couleurs de l'automne, je retrouvais Paris. Sans enthousiasme. Sans déplaisir non plus. Avec indifférence. Une vieille connaissance. J'avais commencé de n'être plus ce que j'étais. À peine le pied posé sur le pont de l'Alexandria, un bananier qui faisait la traversée en 10 jours. Nous étions une douzaine de passagers, garçons-filles, allant étudier en France. J'étais la plus jeune avec mes 16 ans et tous me traitaient en enfant prodige. L'atmosphère était funèbre. Ni flirt, ni danse, ni blague, le lambé nous travaillait l'âme. En outre, il n'y avait aucune distraction à bord. Nous tuions les heures de la matinée à lire, vautrés sur les fauteuils face à la mer. Après le déjeuner, chacun s'enfermait dans sa cabine pour des siestes interminables jusqu'au dîner. Ensuite, agglutinés au fumoir, nous jouions mollement à la belote. Je n'aurais jamais imaginé combien ma mère allait me manquer. Je m'apercevais qu'elle était, comme dit le poème d'Odan, « mon matin, mon midi, mon serein, mon carène et mon hivernage ». Loin d'elle, je n'avais plus d'appétit. Je me réveillais de sommeil fiévreux, espérant que j'allais me retrouver serrée contre sa poitrine. Je lui écrivais chaque jour des pages et des pages, la suppliant de me pardonner ma mauvaise conduite des récentes années et lui répétant combien je l'aimais. À l'arrivée à Dieppe, je postais 10 lettres d'un coup. Elle mit du temps à me répondre. Puis m'adressa dès lors de courts billets sans âme, que terminait invariablement la formule creuse « Ta maman qui pense à toi ». J'essaie encore maintenant de me consoler. Cette surprenante indifférence était probablement de nature pathologique. Elle devait être le premier signe de la mystérieuse maladie qui la cloua un matin au lit et la fit partir quelques jours plus tard dans son sommeil. À Paris, j'habitais rue Laumont, à 2 pas de la rue Mouffetard, au cœur du vieux Paris. Thérèse, devenue ma correspondante, m'avait trouvé une chambre dans un foyer respectable, fréquenté par des jeunes filles de la bonne bourgeoisie antillaise, principalement martiniquaises. Entourée de mulâtresses blondes ou brunes, bouclées ou frisottées, de chabines dorées aux yeux multicolores, vert, gris ou bleu, j'étais la seule à porter peau noire et cheveux grenés. Les 2 autres guadeloupéennes, l'une Danielle, était si blanche qu'elle pouvait tromper un œil rapide, l'autre Jocelyne, balançait sur ses épaules une toison de princesse hindoue. Cela ne me gênait pas le moins du monde. Comme je me croyais la fille la plus laide de la terre, je ne me comparais à personne. Pourtant, j'étais frappée par une incongruité. Bien que ma couleur m'assimilait au petit nègre, coupeur de canne, amarreuse, pêcheur, revendeuse, manœuvre sur les quais, que sais-je encore, j'étais plus éloignée d'eux que les donzelles à peau claire qui m'entouraient. Elles, au moins, parlaient constamment le créole, trompaient bruyamment leur rire et, sans vergogne, brenaient leur bonda au rythme des béguines. À croire que leurs parents ne leur avaient pas inculqué les bonnes manières, à croire qu'ils ne partageaient pas le mépris des miens pour les traditions locales. Comment cela était-il possible? Sandrino était mort, je n'avais plus personne pour me guider. Perdu dans le labyrinthe de mes réflexions, j'arborais une mine malgracieuse et fermée. Je ne donnais le bonjour ou le bonsoir à personne. Aussitôt le dîner achevé, je m'enfermais dans ma chambre tapissée de reproductions de Picasso, en compagnie de l'hymne à la joie ou des concertos brandebourgeois. Assez vite, je finis cependant par me lier avec Jocelyne, elle aussi singulière. Née et grandie à Dakar, où son père était magistrat, elle connaissait à peine le pays de ses parents. Elle en considérait les mœurs et coutumes avec amusement et ne se privait pas pour les moquer. Elle avait baptisé nos compatriotes du foyer les « belles doudous » et jurait qu'elle prenait la Sorbonne pour une foire au mari. Elle se croyait intellectuellement supérieure à tout le monde, sauf à moi, ce qui me flattait. Ensemble, nous idolâtrions Gérard Philippe et les week-ends, nous ne manquions pas une représentation du TNP. Nous partagions aussi une même passion pour le cinéma. J'enviais sa beauté, son assurance, sa manière de mordre son fume-cigarette quand elle s'asseyait à la terrasse des cafés où je ne me hasardais qu'avec elle, d'intimider les garçons du feu de ses yeux barbouillés de mascara. Pas plus qu'à la pointe, mon existence ne laissait place à l'imprévu. Je ne prenais jamais l'autobus, Je marchais à grands pas à travers le quartier latin, depuis la rue Lomont jusqu'au lycée Fénelon. Les cours terminés, un cornet de cholet marron à la main, je prenais place sur un banc du jardin du Luxembourg et le souvenir de ma mère me mettait les yeux en eau. Quand la nuit tombait, je reprenais le chemin du foyer à temps pour le dîner bruyant dans un réfectoire rempli de rires et d'éclats de voix. Pareil à un zombie, je lapais ma soupe. Au lycée, je découvrais la rigueur d'un programme d'hypocagne. Comme je n'ouvrais pas un livre, comme je n'approchais jamais de Sainte-Geneviève, j'étais pratiquement dernière en tout. En classe, bâillant sur d'ingrates versions gréco-latines ou obligée de méditer sur les insomnies de Marcel, j'entendais le cœur de la vie qui battait loin de ses serres d'ennui. Le monde existait aux alentours, il vibrait. Mais comment trouver la route qui y menait? Les professeurs s'accordaient pour ne pas déranger ma paresse. Leur attitude signifiait que cette petite Guadeloupéenne n'était pas à sa place ici, pas une candidate pour les grandes écoles. Seule Madame Épée, le professeur de français, se distingua. C'était une blonde platinée, plutôt forte, engoncée dans un manteau de fourrure, et qui, dès qu'elle eut posé les yeux sur moi, me prit en grippe. Mon apathie, mon indifférence l'exaspéraient. Elle s'interrogeait sur la meilleure façon de me torturer, quand à la fin du mois d'octobre, une nouvelle élève arriva. Elle s'appelait Marguerite Diop et était la fille d'un haut dignitaire du Sénégal. Aussi petite que j'étais haute, une figure ronde et des yeux pleins de malice, tellement menue que les pullovers qu'elle enfilait l'un sur l'autre sans se soucier d'élégance pour se barricader contre le froid ne l'épaississaient pas. Souriante, toujours prête à régaler la cour de récréation d'une histoire africaine, à partager une friandise, cadeau d'une de ses innombrables tantes. C'était une excellente élève, studieuse, vive. Mon contraire en un mot. Madame Épée se saisit de notre différence et l'exploita contre moi. Désormais, les classes de français devinrent des zoos où un gardien exhibait des bêtes captives, des arènes où le montreur les forçait à des tours. Villon, Dubellay, Chateaubriand, Lamartine, toute la littérature française devint prétexte à des mises à mort. Quelquefois, les bronzes du Bénin étaient appelés à la rescousse ou les fresques du Monomotapa. Madame Épée m'affecta un rôle, immuable. À l'évidence, j'incarnais la dégradation de l'Afrique transportée dans le Nouveau Monde. Une fois enjambés les océans, les valeurs si bellement incarnées par Marguerite s'étiolaient. La gaieté, l'humour disparaissaient, l'intelligence et la sensibilité s'éteignaient, la grâce s'envolait. Ne restait plus que lourdeur d'esprit, agressivité et morosité. Madame Épée ne se gênait pas pour nous interroger l'une après l'autre, nous assigner le même exposé et, prenant la classe à témoin, pour commenter nos performances. Sans le savoir peut-être, elle rejoignait la longue lignée des missionnaires et des administrateurs coloniaux qui ont ridiculisé, vilipendé, l'Africain détribalisé, le « trousered nigger », sans vouloir reconnaître que Marguerite, formée dans un pensionnat catholique de Dakar, admise dans un des meilleurs lycées de Paris, n'était pas plus pure que moi. Je dois dire qu'à l'exception de trois ou quatre filles inconscientes de ce qui se perpétrait devant elles, les élèves n'appréciaient pas ces jeux du cirque. Par leur indiscipline, leurs insolences, leurs graffitis au tableau, fait rare à Fénelon, elles manifestaient leur aversion pour Madame Épée. À l'opposé, elles me témoignaient leur active sympathie. J'étais submergée d'invitations à déjeuner, à passer le week-end dans la maison de campagne de leurs parents. J'acceptais. Pourtant, de retour au foyer, j'avais à chaque fois conscience d'avoir tenu le rôle de la négresse à talent. Non, je ne sortais pas d'un champ de canne. Oui, mes parents étaient des notables. Oui, j'avais toujours parlé le français dans ma famille. Mes camarades auraient aussi voulu que je me révolte, que je réponde aux attaques de mon assaillante. Elle ne comprenait pas que privée de ma mère et de mon grand frère, je n'avais plus de force. Constamment opposées l'une à l'autre, Marguerite et moi aurions dû ne pas nous supporter. Au contraire, Madame Épée rapprocha nos caractères dissemblables. Assise au Luxembourg, grelottant sous ses lainages, Marguerite balayait de la main mes arguments. Je me trompais. Madame Épée n'en voulait pas qu'à moi. C'était une racisse qui nous haïssait autant l'une que l'autre. Diviser pour régner, le programme colonial est connu. Ces tirades sur les vertus de l'Afrique étaient des hypocrisies aussi insultantes que ces élucubrations sur l'avilissement des Antilles. Brusquement, Marguerite s'interrompait au milieu d'une docte explication et me montrait, passant pressé sur le boulevard Saint-Michel, son cousin, Cheikh Hamidou Khan, jeune et brillant économiste, son cousin, Cheikh Anta Diop, qui terminait un livre terrible pour dire la vérité sur les Égyptiens, et ma solitude se réchauffait à l'idée que tous les nègres étaient des parents. Elle m'invitait souvent chez une de ses tantes, épouse d'un parlementaire du Sénégal. 12 pièces avenue Marceau, encombrées de marmailles, de visiteurs, de vrais parents, de parasites et de femmes au col de cygnes juchés sur leurs talons aiguilles. À toute heure du jour et de la nuit, on y mangeait du riz au poisson, dans de la vaisselle de grand prix, ébréchée par les mains sans soin des servantes. Camille, un de ses cousins, tomba amoureux de moi jusqu'à l'adoration. Il était court et gros, suprêmement intelligent, un futur cadre de la Banque mondiale. « Dans 25 ans, prédisait-il, nos pays seront indépendants. » Ils se trompaient, ils le furent avant 5 ans. C'était bon d'être enfin désiré, d'être embrassé sur la bouche, un peu ploté. Cependant, je n'étais pas prête pour l'Afrique. À la fin du 2e trimestre, Marguerite disparut. Une rumeur circula, devint bientôt certitude. Elle était retournée au Sénégal pour se marier. On apprit même qu'elle était enceinte et s'était sanglée tout l'hiver. Du coup, Madame Épée m'oublia pour s'acharner sur son ancienne favorite. Cours après cours, elle en fit le lamentable symbole des femmes de sa race, veules et dépourvues d'ambition intellectuelle. Dans quelques années, elle se retrouverait engraissée, un cure-dent à la bouche, traînant la sandale. Moi, assise au banc des cancres, j'avais repris mes rêveries éveillées. Je m'imaginais Marguerite sous les traits d'une Sénégalaise, d'une gravure ancienne que j'aimais. Dans un jardin où poussaient des fleurs altières et barbares, elle était allongée sur un divan, le dos reposant sur des coussins multicolores. Sa tête était enveloppée d'un énorme mouchoir bleu, ses pieds chaussés de bottines à lanières. Elle ouvrait son corsage de taffetas et offrait son sein gonflé de lait à son bébé. Son opulence épanouie narguait les diatribes de Madame Épée. En même temps, j'espérais une lettre, une carte, un signe enfin, pour conforter ma représentation de son bonheur. Elle ne m'écrivit jamais.